Il est temps à présent de retrouver Backstage, le podcast. Backstage, le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Ils nous font découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Retrouvez, si vous le souhaitez, l'ensemble de leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com, tout attaché en minuscules, backstagelepodcast.com. Et aujourd'hui, troisième et avant-dernier épisode de l'entretien avec l'éditrice Sabine Vespizer, au micro donc de Margot Delpierre, sur un montage et un mixage de Thomas Langlin. Un entretien, je le précise, enregistré en novembre 2020.
Est-ce que vous publiez des livres uniquement dont vous recevez les manuscrits, ou est-ce qu'il vous arrive d'aller, de partir à la recherche de nouveaux auteurs pour dénicher une future pépite ?
J'aime beaucoup quand les textes arrivent par réseau de complicité, par réseau au bon sens du terme. Quand un écrivain que je respecte me dit de regarder, je regarde. La filière irlandaise de mon catalogue, par exemple, qui devient assez, quand même assez étoffée, elle est là grâce à Nuala O'Fallon, qui est la première auteure irlandaise que j'avais publiée, dont j'ai publié tous les livres, qui m'a demandé, au moment où elle savait qu'elle était très malade et qu'elle allait mourir, de devenir son exécutrice littéraire, parce que précisément j'avais publié tous ces livres et que, alors même que dans les pays anglo-saxons, les moments où elle n'était plus bankable, ses éditeurs l'ont refusé. Grâce à Nuala O'Fallon, Edna O'Brien est arrivée dans ce catalogue, Claire Keegan aussi, qui voyait qu'il se passait quelque chose dans ce catalogue, ce petit catalogue français, et que Nuala a eu du succès très tôt. Elle a eu un prix Femina en 2006 pour l'histoire de Chicago May. Donc Edna m'a fait demander, qui était publiée dans un grand catalogue et qui avait l'impression un peu de faire partie des meubles et que personne ne s'occupait d'elle, m'a fait demander si ça m'intéresserait de la publier. Pour moi, ça a été une sorte de bâton de maréchal, parce que Edna O'Brien, évidemment, je la lis depuis des années, je la respecte infiniment, et donc c'est l'aventure avec elle a commencé en 2010 avec Crépuscule irlandais, par exemple. Voilà. J'aime beaucoup aussi quand les traducteurs m'amènent des textes. Ça a été le cas pour Conor O'Callaghan, auteur irlandais que m'a recommandé Mona de Pracontal. Je publie en février prochain un auteur mauritanien qui m'a été recommandé par Abderrahmane Sissako, le réalisateur de Timbuktu, qui s'intéresse beaucoup en ce moment à Girl, le livre d'Edna O'Brien, qui donc raconte ce magnifique texte que j'ai publié l'année dernière et qui a donc eu ce prix Femina, qui raconte l'enlèvement par Boko Haram d'une jeune fille nigériane. Et donc j'ai rencontré Sissako à l'occasion de son engouement pour ce texte, et il m'a recommandé à porter le texte d'un auteur qui s'appelle Berouk, qui est un auteur mauritanien jamais publié en France. J'ai évidemment lu avec un œil attentif, parce que je sais que Sissako a un goût très sûr, qui choisit très peu de choses en tant que réalisateur, et j'ai beaucoup aimé ce texte que j'ai décidé de publier. Voilà.
J'aimerais qu'on parle du livre en tant qu'objet. Vous avez choisi un format, on peut dire, presque carré, pas tout à fait, mais ça s'en rapproche, très sobre et pop à la fois, parce qu'il y a ce surlignage sur la première de couverture du nom de l'auteur et du nom du livre dans une couleur qui, je crois, est à chaque fois différente, mais qui ressort très bien. Ça peut être orange, vert, pétant. Vous comprenez les gens qui choisissent les livres à cause de la première de couverture?
Je comprends que la première de couverture peut être mensongère, en tout cas. C'est-à-dire que les couvertures illustrées auxquelles j'ai voulu échapper en créant ma propre maison sont souvent extrêmement séductrices. Et moi, ce qui m'importait en donnant le brief, comme on dit, à la graphiste, qui est toujours la même, qui fait un travail magnifique, que j'ai connu chez Actes Sud et dont la rigueur typographique, la précision m'a toujours impressionnée. Donc c'est Isabelle Mariana. Et quand il s'est agi de trouver une forme à ses livres, et donc à cette maison, je lui ai dit couverture typographique, évidemment Bauhaus, constructivisme russe, et surtout pas d'image. L'idée étant que ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur du livre et que ce qui est à l'extérieur, à savoir la couverture, connote tout simplement une cohérence de maison ou une cohérence de collection, c'est-à-dire que connote un lieu où, évidemment, je n'ai pas la prétention de vouloir fédérer tous les lecteurs, mais en tout cas, le plus grand compliment que puisse me faire un lecteur, c'est je vous fais confiance. J'ai lu 4 ou 5 livres de chez vous, je sais que je vais m'y retrouver. Je sais que je vais m'y retrouver, j'aime pas tout, mais je sais que je vais m'y retrouver, qu'il va y avoir une cohérence, une qualité, une cohérence en tout cas entre la forme et le fond. Donc ce choix de couverture typographique est venu de ce désir-là. Isabelle a eu l'idée géniale des cartouches de couleurs, qui fait qu'en effet, il y a un côté pop, comme vous dites, dans la rigueur et dans la cohérence. Après, l'idée était de s'inscrire dans la belle tradition de l'édition que je lis et que j'aime, hein. Enfin, la belle couverture de Minuit avec l'étoile bleue qui n'a jamais changé, la Blanche de Gallimard. Et puis si on remonte à l'entre-deux-guerres, il y avait beaucoup de couvertures typographiques très très belles. Donc c'était vraiment cette idée-là de s'inscrire une fois encore dans le temps, donc dans une tradition de l'édition à la française. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que le premier Francfort, la première foire internationale, quand j'ai montré mes livres, donc le premier Francfort, bah, c'était forcément 2002. Les éditeurs étrangers, qui ont une tradition évidemment de couverture très illustrée, enfin, avec des surimpressions, des trucs, enfin, qui moi m'agressent l'œil, mais bon, me regardait d'un air de commisération en me disant « It looks so French !» Mais d'un air de dire « Mais ma pauvre fille, tu vas jamais rien vendre !» C'est absolument... Enfin, on ne les verra pas, tes livres en librairie. Bon, le futur a prouvé que, ma foi, ils sont quand même visibles et que, du reste, maintenant, il y a beaucoup plus de couvertures typographiques qu'il n'a pu y en avoir il y a une vingtaine d'années. Ouais.
Mais c'est vrai qu'un livre très illustré, alors des fois c'est une photo, des fois c'est de la couleur, un dessin, peu importe. C'est vrai que d'abord, ça ressort très bien sur une table en librairie. Mais il faut comprendre aussi que pour beaucoup de lecteurs, ça fait aussi partie du plaisir, des fois, de l'objet livre.
Oui, bien sûr, moi je respecte ça. J'espère que mes livres donnent aussi un plaisir de l'objet livre, qui sera plus un plaisir, en effet, des matériaux choisis, de la sensualité du matériau qui permet aussi un confort de lecture. On a beaucoup réfléchi à ça aussi avec mon imprimeur, l'imprimerie Paillard à Abbeville, qui fait un travail magnifique depuis le début. Il y a déjà ce choix d'un format qui semble plus carré que rectangulaire, même s'il n'a rien de très original, puisqu'à 2 mm près, c'est quand même le format des éditions de Minuit. Donc, c'est intéressant de voir à quel point on n'invente jamais rien. Je veux dire, avec mon mari et associé Jacques Lénart, on a passé des soirées à découper des petits cartons pour trouver le format idéal. Et bon, au final, ça existait déjà. Mais le choix, oui, de ce format qui permet d'avoir une page plus large et donc plus grande largeur de miroir, faisait partie de la réflexion du confort de lecture. Après quoi, il y a évidemment le choix du caractère, qui est un garamond, qui est un garamond monotype, donc pas un garamond Adobe, un garamond machine, enfin qui respecte cette belle histoire de la typographie qui a été aussi celle de l'imprimerie Paillard qui composait au plomb jusqu'en 1982. Donc il y a eu ce choix du papier, enfin d'un papier qui est un beau papier, qui ne vieillit pas, qui ne jaunit pas, le choix de coudre les livres pour qu'ils soient solides, le choix de mettre une page de garde pour à la fois théâtraliser l'entrée dans les livres et à la fois rendre plus solide cette couverture à la française qui est une couverture souple, hein. Nous n'avons pas en France ce que les anglo-saxons appellent des hardcovers ou très rarement pour la littérature jeunesse ou toute la réflexion était concentrée sur le confort de lecture, sur ce qu'on appelle les blancs tournants, c'est-à-dire des grandes marges, des interlignages. L'idée aussi que quand on est... J'aime beaucoup l'idée... Quand je lis un manuscrit, qu'en tant que lectrice, j'ai de la place pour respirer dans le texte. Je déteste ces livres où l'auteur me prend par la main, m'explique que il sort les clés de sa poche, il s'approche de sa voiture, il les ressort, il met la clé dans la serrure, il ouvre la serrure, il referme la serrure, etc. Non, enfin, je veux dire, j'ai pas besoin qu'on m'explique tout, j'ai besoin d'avoir de l'espace pour justement, pour que mon imaginaire puisse trouver sa place. Je parlais de Claire Keegan et de la merveilleuse phrase elliptique qui est la sienne. C'est exactement ce que j'aime dans les livres aussi, c'est que l'imaginaire du lecteur puisse travailler. Or, dans la composition d'une page d'imprimerie, j'aime ça aussi. J'aime que mon œil puisse vagabonder, qu'il ait de la place, qu'il soit pas étouffé avec 90 signes à la ligne, avec des signes complètement tassés, 3000 signes à la page, où on sort de là, on a besoin d'une règle pour lire, parce qu'on ne sait pas où on en est, où on lit avec le doigt comme un enfant, et où on étouffe complètement, on en oublie le sens. Donc l'idée même que la forme produise du sens va évidemment majoritairement aussi sur l'objet livre.
Mais c'est vrai que c'est très confortable quand on lit les livres de votre maison. Vous le disiez, vous l'avez mentionné, votre mari a donc investi avec vous.
Absolument.
C'est vraiment une histoire de couple, de famille, comme vous le disiez, pour durer une maison pour durer dans le temps. Vous avez eu beaucoup de réflexions du fait de votre statut de femme entrepreneur et patronne.
Écoutez, je n'ai pas voulu les entendre. J'ai pas voulu les entendre, mais en effet. Elles existent et je trouve que la situation ne s'arrange pas.
Elles existent toujours. Après 20 ans.
Alors elles existent. Non, c'est très. Je n'ai pas eu de remarques désagréables au début, mais on sait bien qu'une femme a toujours plus de mal à s'imposer. Mais quand une femme est là sur le marché du livre avec, vous l'avez dit, une reconnaissance symbolique pour la maison, même si économiquement tout cela reste ô combien fragile, mais en tout cas une reconnaissance symbolique. Il est encore difficile pour les femmes dans l'édition de faire entendre leur voix dans les réunions. Mais ça, c'est une banale histoire. Oui, il faut parler un petit peu plus fort. Où il faut rentrer directement dans le vif du sujet en disant pardon, je prends la parole.
Mais ça, c'est parce que les femmes ont des voix qui portent moins, c'est bien connu.
C'est bien connu.
Depuis, vous avez réussi à faire fi de toutes ces remarques.
Bah, j'ai une certaine tendance à plutôt foncer et à en faire fi naturellement, si vous voulez. Donc, je veux dire, j'essaie de ne pas me laisser atteindre par la sottise du monde. Or, le machisme est une forme de sottise. On est bien d'accord.
C'est conscient ou inconscient alors d'avoir publié beaucoup, je crois vraiment majoritairement, des femmes dans votre catalogue ?
C'est inconscient dans la mesure où je ne décide pas quand je lis un texte que je vais le publier parce que c'est une femme, mais il se trouve qu'en effet je publie beaucoup de femmes.
Sans démarche militante quoi, c'est ça ?
Sans démarche militante, mais enfin en assumant très fièrement d'avoir trouvé plus de textes de femmes qui m'émouvaient, qui me portaient et dont le sens de la liberté était peut-être plus aigu que de textes d'hommes où souvent j'ai trouvé une soumission plus grande à, comment dire, des formes plus classiques.